Bonjour, j'ai reçu la recommandation de la part des collègues anciens de mon église de vous saluer chaleureusement. Vous en connaissez certains qui étaient présents, qui font partie du groupe Yatal et qui sont venus faire un concert il y a quelque temps chez vous. Comme le disait Mathieu, je suis marié et j'ai deux enfants. C'est une joie d'avoir deux enfants et cette année, ma plus grande, Abigail, a fait sa première colonie. Quand nous sommes allés la chercher avec ma femme, nous lui avons posé plein de questions. C'était la première fois que nous étions séparés d'elle pendant deux semaines. Et alors, nous voulions savoir qu'est-ce que ça donnait cette colonie, qu'est-ce qu'elle a aimé. Et quelle fut ma surprise quand elle m'a dit que ce qu'il y avait de mieux, c'était les repas. Moi, je m'attendais à des grandes aventures. Enfin, ils ont eu des animations, c'était à Champfleury, là-bas, un centre de vacances chrétien, pas très loin de chez nous, des animations extraordinaires. Enfin, je voyais tout ce que les animateurs faisaient. Il y avait un blog avec toutes les photos. Et elle dit, c'était les repas. Je dis, mais Abigail, pourquoi c'était les repas? Elle me dit, les repas, c'était trop bien, parce que les moniteurs n'étaient pas avec nous à table. Ça la change de quand on est à la maison avec papa et maman à table, c'est pas la même. Et je vous cite Abigail, les moniteurs n'étaient pas avec nous à table, on pouvait faire ce qu'on voulait. Ce à quoi, je lui ai répondu, ah bon, et vous faisiez quoi? N'importe quoi. Et voilà, ma fille était contente parce que pendant deux semaines à table, le matin, sur ses tartines, elle pouvait mettre 3 tonnes de Nutella, 6 cuillères de chocolat dans son lait chaud, etc., etc. C'était la fête, c'était avec les copines. Et voilà, n'importe quoi. J'étais libre et du coup, je faisais n'importe quoi. Voilà qui résume, je trouve, assez bien l'usage dont nous faisons, dont nous sommes enclins à faire, de la liberté qui nous est conférée. Faire n'importe quoi. L'apôtre Paul était un serviteur de Jésus-Christ qui avait une mission bien particulière, qui était celle d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce dans tout l'Empire romain. Et ce message était unique et demeure unique aujourd'hui, 2000 ans après, parce que la grâce est un message qui est unique, qui nous raconte quelque chose d'unique. Il nous raconte que Jésus-Christ a obéi pour nous à toutes les exigences de la loi de Dieu, et que Jésus-Christ, ayant obéi à toutes ces exigences-là, en plus de cela, est allé jusqu'à l'obéissance de la croix, et la croix sur laquelle il est mort, il a porté notre culpabilité. Il est ressuscité et la grâce, c'est qu'il nous offre sa vie en échange de la nôtre. Il prend notre corruption, il prend notre péché et lui nous donne sa justice. Voici le message de la grâce et nous sommes donc placés dans notre relation avec Dieu au nom de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, dans une relation qui est celle de la grâce. Si nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est simplement grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et l'apôtre Paul donnait sa vie pour annoncer ce message autour de lui. Et ce message consistait à impliquer nécessairement qu'il n'y a plus besoin d'accomplir quelque acte religieux pour tenter d'obtenir les faveurs de Dieu et le salut. Le salut est un don gratuit de Dieu. Et l'obéissance qui en découle est une obéissance qui est motivée non pas pour accéder au salut, mais une obéissance qui est le fruit d'une reconnaissance pour le salut qui a été obtenu. C'est comme l'obéissance d'un mari, la joie d'un mari qui aurait trompé sa femme, qu'il regretterait amèrement et qui irait vers elle en lui demandant pardon. Et il voit qu'elle le pardonne. Et est-ce qu'il se dirait, oh là là, je regrette mon erreur, elle m'a pardonné, chouette, je vais pouvoir continuer à faire ce que je veux? Bien sûr que non. Le pardon de Dieu nous pousse à la reconnaissance. Et pour certains chrétiens, c'était une notion difficile à comprendre. Et pour nous aussi, toujours 2000 ans après, c'est quelque chose de toujours difficile à comprendre. Et en particulier pour un groupe de personnes qui étaient dans l'église de Corinthe, que Paul connaissait très bien. Selon ces personnes, cette liberté était comprise comme un permis ou plutôt une licence. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont fans de James Bond, mais James Bond, l'agent 007, avait une licence particulière. C'est ce qu'on appelle dans le film « licence to kill ». Il est couvert par son statut, et son statut lui confère le droit de transgresser toutes les lois. Il sera toujours protégé et couvert par son gouvernement. Et donc, selon eux, ces Corinthiens, eh bien, ils pensaient qu'ils étaient peut-être devenus des agents 007, qui sait. Les chrétiens de cette église de Corinthe, certains étaient vraiment très influencés, finalement, par la culture grecque, qui voyait l'homme comme étant vraiment divisé en deux, avec une frontière entre les deux parties d'un homme qui serait physique et d'un homme qui serait spirituel. D'un côté l'esprit et d'un côté le corps. Et pour les Grecs, il n'y avait aucun rapport entre le corps et l'esprit. Tout ce qui était de l'ordre de l'esprit, l'exercice de l'esprit de l'homme, était toucher simplement le cercle des idées. Le corps, lui, c'était tout ce qui était matériel. Ainsi, on pouvait déduire de cela, et c'est ce que faisaient certains Corinthiens, qu'on peut faire de son corps ce que l'on veut, ça n'implique rien de mauvais d'un point de vue spirituel. Le salut est d'ordre spirituel, le corps, lui, est d'ordre physique. L'âme vit éternellement, le corps humain, lui, non. Conclusion, je peux utiliser mon corps pour en faire n'importe quoi. Et voici ce que Paul va leur répondre. Les amis, je vous invite à vraiment être attentifs à la lecture du texte, parce que les affirmations de l'apôtre Paul sont des vérités essentielles. Si nous voulons vivre la vie chrétienne, et la liberté que nous avons obtenue vis-à-vis du péché est vivre d'une manière qui glorifie Dieu. Notre texte est dans 1 Corinthiens, au chapitre 6. Et je vais lire les versets 12 à 20. Chapitre 6 de 1 Corinthiens et les versets 12 à 20. Voici comment Paul aborde cette question de la liberté. Écoutez bien. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous aucun esclavage quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments, certes. Cependant, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, quand on entend quelqu'un qui dit « mais attention », il faut faire attention. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas! Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est écrit, citation du livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24, « Les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. » C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Comment les Corinthiens devaient-ils comprendre cette réponse argumentée de l'apôtre Paul? Si nous devions résumer sa pensée en une phrase, que dirions-nous? Voici ce qu'il me semble que Paul affirme. Parce que nous ne nous appartenons plus, parce que nous avons été rachetés, le seul usage de notre liberté qui soit légitime est celui qui recherche à glorifier et à honorer Dieu dans toutes les dimensions de notre vie. Dit positivement, l'usage légitime de notre liberté est de glorifier Dieu. Dieu nous rend libres afin que nous le glorifions. Et regardez le texte, comparez juste la première phrase et la dernière affirmation. Tout m'est permis et vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. On voit que Paul veut les amener à un endroit duquel ils n'étaient pas, à un raisonnement qui leur était totalement étranger. Et comment ce Paul va les conduire d'une position qui affirme « je m'appartiens, je peux faire ce que je veux » pour aboutir à « je ne m'appartiens pas ». Eh bien, il va faire deux grandes choses. Premièrement, il va leur dire pourquoi ils ne peuvent pas user de leur liberté pour faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et ça, vous avez ça dans l'affirmation que nous avons dans les versets 12 à 14. D'abord, il leur dit ce qu'ils ne peuvent pas, les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas user de leur liberté pour faire n'importe quoi. Et ensuite, à partir du verset 13, il leur rappelle pourquoi leur liberté doit donc être utilisée pour la gloire de Dieu. Et c'est ces deux grandes facettes que je vous propose de regarder, ces deux grands arguments. Pourquoi, premièrement, nous voyons comment Paul leur explique qu'ils ne peuvent pas user de leur liberté pour faire ce qu'ils veulent de leur vie et de leur corps, bien entendu. Regardez ce qu'il fait. Avant tout, il cherche à dénoncer l'absurdité de leur raisonnement. L'immense majorité des spécialistes, vous voyez les versets 12 et 13, qui recèlent deux affirmations, tout m'est permis, et les aliments sont faits pour le ventre, et le ventre pour les aliments. La plupart des commentateurs pensent que Paul utilise ici deux adages qui étaient bien connus et utilisés, et qui étaient propres aux Corinthiens. Selon eux, les Corinthiens, leur liberté en Christ les autorisait à dire « tout m'est permis, je peux faire ce que je veux, quand j'ai de l'appétit, je mange, puisque le ventre est fait pour les aliments sont faits pour le ventre, je dois satisfaire mon appétit. Eh bien, quand j'ai un appétit sexuel, eh bien, je le satisfais. » Et Corinthe était la ville aux 1000 prostituées, où il y avait liée à l'idolâtrie, une prostitution qui était religieuse, qui était rituelle. Et certains se disaient, moi, étant spirituellement en Christ, je suis libre de pouvoir aller voir une prostituée pour satisfaire un besoin de mon corps. Mais ça n'a rien à voir avec un péché, c'est physique, c'est pas spirituel. Et ils utilisaient donc ces adages « tout m'est permis » pour justifier les relations avec les prostituées dans une époque où celles-ci étaient considérées comme un acte commun, rituel et somme toute banal. Et Paul les rejoint dans leur raisonnement pour leur montrer à quel point leur pensée est absurde. Les propos de Paul, j'en parlais hier soir, j'en ai fait allusion par rapport à la lettre à 1 Corinthiens. Il y a un ton d'ironie que Paul utilise tout au long de la lettre. Parce que les Corinthiens étaient tellement, sur certains points, imbus d'eux-mêmes que Paul retournait les arguments par ironie contre eux pour leur montrer leur orgueil. Paul dit « C'est permis ?»« Oui, mais c'est pas bon. »« Tout était permis ?»« Mais tout n'est pas bon. »« Permis ?»« Mais je peux pas me rendre esclave de quoi que ce soit. » La liberté comprise comme déconnectée de Dieu conduit, selon Paul, à l'immoralité, faire des choses qui ne sont pas bonnes, et à l'esclavage. Ce précisément pourquoi nous avons été sauvés et de quoi nous sommes rendus libres. Libres de l'esclavage du péché, libres de l'asservissement. Et Paul dit, tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est ça que vous devriez dire, les amis. Et en plus de cela, comment parler de liberté lorsqu'on est utilisé pour nous attirer vers quelque chose qui nous avilit et qui nous asservit. C'est un non-sens. Se mettre sous un esclavage, c'est un non-sens, après parler de liberté. Et Paul affirme ceci entre les lignes, c'est qu'une connaissance de la nature humaine, ajoutée et interprétée par les affirmations des Écritures sur la loi morale de Dieu, nous conduisent à dire « libre n'est pas égal à être avili, à être dans le péché ». La liberté du point de vue de Dieu, c'est être libre de vivre selon la loi morale de Dieu. Et il n'a jamais été question pour l'apôtre Paul que l'évangile soit une licence pour transgresser tout ce que Dieu déclare bon et un permis de péché, comme James Bond, lui, a son permis de tuer. Et Paul va les mettre face à une réalité qu'il nie. C'est la suite du verset 13. À ces personnes qui vivaient sans se préoccuper du physique et qui pensaient qu'ils n'étaient que des êtres spirituels et qu'il n'y a que ça qui compte, Paul leur dit « Dieu détruira l'un comme l'autre ». La fin de la vie, telle que nous la connaissons, n'a rien de naturel. Personne n'est jamais mort d'une mort naturelle. Nous n'avons pas été créés pour la mort. C'est Dieu qui met un terme à la vie. C'est Dieu qui, à un moment donné, détruit le corps. Quelles que soient les circonstances qui nous font entrer dans la mort, c'est que Dieu derrière a dit maintenant, stop. Le sexe, la nourriture sont des cadeaux que Dieu nous donne pour nos plaisirs, qui participent à nous rendre à l'image de Dieu. Mais ils nous sont donnés pour être vécus, expérimentés dans un cadre précis. Et si on prend le cadre du mariage, la sexualité est un cadeau qui est donné pour être vécu dans le cadre du mariage. Et ce que Paul fait est extrêmement brillant dans les versets qui suivent. Il leur rappelle, les amis, vous dites que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre corps, que ça ne concerne pas Dieu. C'est Dieu qui va détruire votre corps. Dieu met un terme à la vie. Vous ne pouvez pas partir dans cette séparation coupée en deux, d'un côté l'esprit et d'un côté le corps. Votre vie est un tout, votre vie spirituelle et aussi votre vie corporelle. La façon dont vous utilisez votre corps est hautement spirituelle ou non. La mort est rattachée au jugement. La mort est rattachée et la conséquence inévitable du péché. Et je vous relis les versets qui suivent. Donc l'apôtre Paul dit « Dieu détruira l'un comme l'autre ». Mais attention, attention, notre corps, lui, première chose que dit Paul, n'a pas été fait pour l'inconduite. Et au verset 14, « En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera. » Souvenons-nous que dans 1 Corinthiens, plus loin, il y a le chapitre 15 et que Paul rappelle qu'il y a beaucoup de personnes dans cette église, enfin en tout cas certaines personnes dans cette église de Corinthe, qui niaient la résurrection physique. Et Paul dit déjà ici, il anticipe ce qu'il va redire plus loin au chapitre 15, Christ est ressuscité corporellement et ce corps que Dieu détruit à cause du péché, il va le ressusciter. Et nous aurons une vie éternelle où nous serons unis à Christ. Christ s'est uni à nous et nous, nous sommes unis à Christ. C'est ce qu'il dit à la fin du verset 13. Alors Paul avance ces deux arguments-là. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire ce que nous voulons de notre propre corps? Premièrement, parce qu'il n'a pas été créé pour l'inconduite. Si Dieu nous a fait, c'est pour que nous vivions selon sa volonté, dans la dépendance et selon le cadre et les lois qu'il nous a données. Nous lui appartenons, c'est lui qui nous a créés. Quand mon fils me crée une pâte à modeler, un petit bonhomme, j'en ai une certaine collection, si il me le donne et ce que souhaite mon fils, c'est que je le mette sur ma table de nuit. Au bout d'un moment, j'ai une table de nuit qui est grande comme ça, entre tout, voilà. Et quelle fut sa tristesse quand il a vu des vieux petits bonhommes qui étaient dans le tiroir, enfermés dans la table de nuit. Il était triste parce qu'il l'avait fait pour moi et il voulait que j'en profite de cette pâte à modeler-là. Celui qui fait quelque chose veut voir cette chose utilisée selon ses desseins. C'est le Créateur qui décide de ce à quoi doit correspondre, de ce à quoi doit aspirer la chose qui vit. Et notre corps est créé pour fonctionner selon le cadre que Dieu nous a donné, selon ses lois. Nous ne sommes pas faits pour l'immoralité, nous ne sommes pas faits pour l'adultère. Nous ne sommes pas faits pour la pornographie. Nous ne sommes pas faits pour toutes les convoitises que nous poursuivons. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire ce que nous voulons? Parce que nous avons été créés par Dieu. Et Paul rajoute, parce que vous, chrétiens, vous êtes destinés à être ressuscités dans votre corps. Quand on considère Si nous considérons le fait que notre corps a une origine si merveilleuse et qu'il a une destinée si sainte, comment, Corinthiens, pouvez-vous justifier de vivre et de légitimiser le péché? Pourquoi pouvez-vous utiliser votre liberté pour faire ce que vous voulez de votre vie? Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous avez été créé par Dieu. Et parce que vous participez déjà à la vie nouvelle que Christ a mis en vous. Et c'est ainsi qu'après avoir démontré aux Corinthiens comment leur raisonnement était totalement absurde au regard de qui est Dieu, de l'origine, du jugement et de la vie éternelle, que Paul va, à partir du verset 13, maintenant leur rappeler pourquoi leur liberté, maintenant, doit être utilisée à l'honneur et à la gloire de Dieu. Et là encore, il utilise l'ironie pour les confronter au mieux. Et je trouve que c'est génial ce que fait Paul. Vous avez vu dans la lecture, Paul utilise trois fois une même formule. Ignorez-vous que vos corps sont les membres de Christ ? Ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul avec elle ? Et encore une fois, cette même formule, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit ? Ce sont des questions rhétoriques. En posant ces questions, en fait, Paul répond à ces affirmations-là. Loin de là, répond Paul à ces questions. Vous savez ce que ça signifie ? Je vous donne ma traduction. Non, mais ça ne va pas la tête ? Transformons les questions en affirmations. Si Paul n'était pas ironique, qu'est-ce qu'il dirait ? Il dirait, vous savez très bien que dans votre corps, vous êtes unis à Christ. Non, mais ça ne va pas la tête d'aller coucher avec une prostituée. Vous savez très bien, les amis, que l'adultère vous unit bien au-delà d'un acte physique. Non, mais ça ne va pas la tête d'aller voir des prostituées. Vous savez très bien que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous êtes donc consacré à être saint et à être en vous-même un temple qui adore Dieu, au service de Dieu. Mais ça ne va pas à la tête de croire que vous êtes destiné à faire ce que vous voulez de votre corps ? Comment pouvez-vous imaginer une seule seconde que votre vie vous appartient ? Considérez le prix que Dieu a payé pour vous racheter de votre péché. Voici ce que Paul aurait affirmé s'il n'avait pas utilisé l'ironie. Et dans ce que dit Paul, il y a quatre affirmations. Première raison pour lesquelles la liberté doit être utilisée pour l'honneur et la gloire de Dieu. Paul le dit, nous sommes déjà unis à Christ, ici-bas, dans notre corps. Parce que le salut que nous avons obtenu par la grâce de Dieu est un salut au plus haut point qui nous est donné. Dieu nous donne une nouvelle nature et cette nouvelle nature qui nous est donnée n'est rien de moins que d'être unis et d'être rendus participants d'une nouvelle vie, pas une nouvelle vie n'importe laquelle, mais participants de la vie du Christ ressuscité. Et ça, c'est le cadeau de la grâce. L'Esprit de Dieu nous unit à Christ, et en nous unissant à Christ, nous sommes unis donc à sa mort, et mort vis-à-vis du péché aux yeux de Dieu, dans notre condition de pécheur, et vivant avec Christ, justifié par Christ. Pour aider les Corinthiens à comprendre pourquoi l'usage de la sexualité est mauvaise et donc grave, il leur rappelle ceci, vous êtes unis à Christ dans votre corps, puisque c'est tout votre corps qui va ressusciter. Déjà, vous vivez cette union avec Christ. Et il dit, verset 16, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est écrit, les deux ne feront qu'un. Pourquoi cette citation du mariage et de la Genèse, ce vieux texte qu'ils avaient déjà probablement entendu et que Paul leur rappelle ? Pourquoi il va les aider avec ce texte-là ? Eh bien, parce que dans les Écritures, le mariage nous est présenté comme une union. Et comme une union qui est en réalité une alliance, une union qui est le fruit d'une alliance. Dans le sens biblique, une alliance est un engagement entre deux personnes. Et dans le mariage, en particulier, c'est une alliance entre trois personnes, entre Dieu qui unit un homme et une femme qui s'unissent. Un engagement entre trois personnes qui ne peut être annulé. Il y a Dieu qui unit un homme et une femme pour qu'ils ne fassent plus qu'un à la fin, qu'ils soient unis, qu'ils ne fassent qu'un. Vous étiez un plus un maintenant, par l'alliance du mariage. Vous êtes unis, vous ne faites plus qu'un. et les relations sexuelles au sein du couple touchent jusqu'au tréfonds de notre âme, puisqu'elles sont la manifestation physique et émotionnelle, psychologique, spirituelle de cette union, la dimension la plus intime qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Et dans ce combat contre l'impureté sexuelle, Paul leur explique ceci. Si les suites de l'intimité de l'union entre un homme et une femme sont une union de corps, d'âme, d'esprit, quitte à ce que les Écritures ne disent « vous ne faites plus qu'un », si on ne fait plus qu'un avec Christ, puisque nous sommes unis avec Christ, quand vous couchez avec une prostituée, vous le faites en étant unis avec Christ. Et vous qui êtes membre de Christ, vous connectez Christ et vous l'unissez, vous l'amenez dans votre lit et dans le lit de la prostituée. Jésus. Ce que Paul veut, c'est choquer. Et ce qu'il fait, c'est qu'il n'en rajoute pas. Il les met face à une réalité qu'il nie. Et en ce qui nous concerne, nous vivons à une époque où la sexualité vécue en dehors du mariage est devenue la norme. Affirmer que la sexualité est exclusivement réservée pour un homme et une femme dans le cadre du mariage et dans ce cadre-là vécu comme un don mutuel d'amour et de grâce et de respect et d'intimité et de manifestation la plus intime d'amour et d'unité qu'il y a entre deux personnes, c'est une vérité qui aujourd'hui est complètement rejetée. Et l'Église n'est pas en reste. Ça ne fait que 4 ans que je suis pasteur. En 4 ans, dans mon Église, qui est d'une taille comparable à la vôtre, j'ai déjà eu affaire qu'à de 3 adultères. 4 divorces. Je ne pense pas qu'à Étup, vous soyez mieux qu'à Grenoble, sans vouloir vous offenser. Je ne connais personne ici dans cette salle, donc je me sens totalement libre. Peut-être qu'il y en a qui sont en situation d'adultère. Ce ne serait pas surprenant. Élargissons un peu plus loin. Peut-être que vous vous dites, mais moi, non, je ne trompe pas ma femme. Mais l'immense majorité d'entre nous, j'en suis convaincu, je le souhaite, n'est pas concernée par cette question d'adultère. Mais Paul rappelle que l'adultère est autant lié à l'être physique qu'à notre être intérieur. Et finalement, il rappelle simplement quelque chose que Jésus affirmait. Celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère. Combien d'entre nous ont regardé un film pornographique cette semaine? Combien d'entre nous ont nourri des fantasmes sentimentaux vis-à-vis de quelqu'un d'autre que leur conjoint? Combien ont nourri et se sont laissés entraîner parce qu'ils regardaient à la télé à avoir des pensées érotiques? Christ vit en nous et est entraîné avec nous. Ce Christ qui nous a délivrés du péché est entraîné avec nous lorsque nous faisons cela. Et Paul dit, c'est proprement scandaleux. Et que devons-nous faire? Regardez le verset 18. C'est pourquoi fuyez ça. La tentation agit comme un aimant qui nous attire. Et Paul dit, face à cette tentation, face à ces habitudes perverses que vous avez, fuyez. Pas, j'espère que demain vous allez fuir. Fuyez maintenant. Maintenant il faut fuir. Les implications de la pureté, de l'impureté sexuelle sont graves, puisque l'impureté sexuelle implique toute notre personne, et nous qui sommes unis à Christ, nous l'impliquons avec nous dans le péché. Et le péché pour lequel il est mort, pour que nous en soyons délivrés. Finalement, quand nous y retournons, nous le rembarquons avec lui. La fuite n'est pas un acte qu'on prend le temps de mûrir. La fuite est un acte de réaction d'urgence. La fuite est une réaction face au danger. Et Paul leur dit « Attention, danger !» C'est une décision radicale face à un danger qui est imminent. Fuyez ! Arrêtez ça tout de suite, les amis. Première raison pour laquelle notre liberté doit être utilisée pour la gloire et l'honneur de Dieu, parce que nous sommes déjà unis à Christ, alors arrêtez immédiatement ce que vous faites. Deuxième raison pour laquelle notre liberté doit être utilisée pour la gloire et l'honneur de Dieu, Paul va un peu plus loin et dit, au verset 19, « Nous sommes le temple où réside l'Esprit. » En rappelant cette réalité, Paul nous rappelle notre vocation. En désignant notre corps comme le temple, il nous aide à comprendre à quel point Dieu agit envers nous avec grâce. Et il faut se rappeler ce que ça veut dire, le temple, très courtement. Dans l'histoire d'Israël, le temple a été créé à l'initiative de Dieu. Dans quel but ? Pour que l'homme puisse le rencontrer, entrer dans sa présence. Et pour pouvoir entrer dans sa présence seulement à cet endroit-là, il fallait qu'il rentre avec le sang d'un sacrifice, d'être couvert par un sacrifice pour que la justice et la colère de Dieu soient suspendues. C'était le lieu de la rencontre, le temple. Et ce temple, avec tout le système de sacrifice qui était adjoint, préfigurait, annonçait un temple d'une autre nature. Un temple où Dieu ne viendrait pas résider dans un lieu, mais viendrait lui-même résider en tant qu'homme au milieu de nous. Et c'est pour cela que Jésus affirmait qu'il était le temple. Détruisez ce temple, moi je le reconstruirai en 3 jours. Cette image se poursuit à la suite, Jésus devenant le temple, Dieu présent au milieu de nous, ayant offert le sacrifice parfait qui nous permet d'être unis à lui et de rentrer en relation avec Dieu, les Écritures nous disent un peu plus loin que l'Église, nous formons le temple. Le peuple de Dieu devient le lieu où Dieu habite sur terre. Et notre mission à nous est de répandre sa gloire et de faire aboutir la mission de Dieu en tant que temple de Dieu, en tant que corps de Christ que nous sommes. Et là, Paul individualise cette même vérité. Chacun des chrétiens sur terre, chacun d'entre nous qui avons confié notre foi en Jésus-Christ pour être sauvés, qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Paul, comme je l'ai dit, avait affaire à des gens qui pensaient que l'existence était en 2 catégories complètement distinctes et qui n'avaient aucune influence entre elles. Paul leur dit, votre corps physique, c'est le temple. Vous ne pouvez pas séparer le physique du spirituel. Vous ne pouvez pas dire que votre vie et votre comportement n'a rien à voir avec le péché ou la morale ou le salut ou les exigences de Dieu. Quelles sont les implications pour nous ? Le temple était consacré à accueillir Dieu. Paul leur dit, vous devez être consacré, non pas dans des temples idolâtres, des temples d'idoles, allez vous prostituer, mais à accueillir et laisser vivre en vous l'Esprit et à honorer Dieu, à accueillir sa présence. Le temple était le lieu qui était consacré à la rencontre et à l'adoration et au sacrifice. Paul leur dit, votre corps doit être consacré à Dieu. Votre corps est un temple vivant pour Dieu. Et c'est ce qu'il dit d'une manière différente finalement dans Romains au chapitre 12 dans les versets 1 et 2. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Le temple était l'habitation et le lieu saint où Dieu rencontrait l'homme. Notre corps est le lieu où Dieu saint vient habiter, nous permettre de le rencontrer quotidiennement et de bénéficier de sa présence et de la communion. Et je voudrais que ce matin, nous puissions nous interroger. Est-ce que notre corps, est-ce que notre vie est consacrée à Dieu? Est-ce que nous recherchons la sainteté dans les différents domaines où notre vie, qui implique notre vie, dans notre foyer, dans notre travail, dans nos loisirs, dans nos relations? Première raison, nous sommes unis à Christ. Deuxième raison, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça nous conduit à l'affirmation suivante du verset 19. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Imaginez qu'en arrivant chez vous, là, en rentrant de l'église, vous trouviez quelqu'un à la maison, posé sur le canapé, il a ouvert les chips, la bouteille de vin, il est en train de prendre l'apéro, et il profite de tout ce qui est à vous. Et il fait n'importe quoi. Il a tagué les murs, il a sali les toilettes, voilà. Vous dites, oh mais vous croyez où là? Vous n'êtes pas chez vous? Faites pas comme chez vous. Surtout pas, vous n'êtes pas mes invités. Imaginez, vous allez au McDo, ou dans une... Ouais, au McDo, bon, peut-être pas tous fans ici, vous avez des bons fromages, donc vous n'allez peut-être pas forcément au McDo, mais... imaginons, voilà, on va au McDo, on commande un Big Mac, vous savez, il arrive dans une petite boîte, on se dit, bah, j'ai acheté un Big Mac, donc ce Big Mac, il m'appartient, vous ouvrez la boîte, et vous avez un Big Mac qui est croqué dedans. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Non. Vous l'avez acheté, il vous appartient. Quand quelque chose m'appartient, c'est moi qui décide ce que j'en fais. Et Paul dit, à qui est-ce que vous appartenez? Pas à vous-même, à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Il est notre propriétaire parce qu'il nous a rachetés. Rien ne nous appartient. Ni notre corps, ni notre vie, ni le temps qui nous est donné, ni nos capacités, ni nos biens matériels. Tout, absolument tout, lui appartient, sinon Dieu n'est pas notre Dieu. On ne peut pas se donner que partiellement à lui. Nous appartenons au Père qui nous a créés. Nous appartenons au Fils qui nous a rachetés. Nous appartenons à l'Esprit qui nous habite. Et alors que nous sommes tentés par notre vieille nature à l'autonomie, à vouloir déterminer nous-mêmes ce qui est bon ou pas bien, ce que nous pouvons faire ou non, nous ne sommes pas libres de vivre comme nous le désirons, car nous lui appartenons. Vous savez, sur mon réveil le matin, vu que des fois je me couche tard et que j'ai du mal avec ça, parce que justement je gère mal mon temps comme s'il m'appartenait, et je ne prends pas le temps que Dieu me demande pour me reposer, le titre de mon réveil c'est « Tu ne t'appartiens pas ». J'ai mis ça pour me rappeler, je ne m'appartiens pas. Allez, tu te lèves, tu es malin, parce que maintenant, Dieu attend quelque chose de toi et tu dois le faire. À chaque fois que je pense ou que j'agis comme si ma vie m'appartenait, finalement, je dis à Dieu, renonce à ce qui t'appartient. Je veux reprendre ce qui est à toi. Et j'espère que ce matin, Dieu nous donne... par sa parole, par ce qu'affirme Paul, une opportunité de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Rien ne nous appartient, ni notre vie, ni notre salut, ni notre destinée. Tout appartient à Dieu, parce que Christ nous a unis à lui, parce que nous sommes le temple où réside son esprit, et parce que Dieu affirme que nous lui appartenons. Et Paul va mettre un dernier coup de marteau. Pourquoi nous lui appartenons? Parce que nous avons été rachetés à grand prix. C'est notre vie entière qu'il a rachetée. Nous devons l'honorer parce qu'il nous a rachetés. Et ce que Paul veut que les Corinthiens fassent, c'est qu'ils se rappellent le prix de ce rachat. Pour nous racheter, Dieu a dû donner... a dû payer avec ce qui existe de plus précieux, ce qui a le plus de valeur de toute éternité. C'est la vie de son Fils. Un sang qui a coulé pour nous. Il a payé d'une manière parfaite un prix qui n'a pas de fin, un prix qu'on ne peut pas mesurer et qui a une portée éternelle. Il a offert son Fils donc on ne s'appartient pas. Envers Paul, envers les Corinthiens, envers nous, ici, Dieu a suspendu sa colère, mais il ne l'a pas suspendu sur le Fils quand il était sur la croix. Il a déversé sur lui toute sa colère afin de ne pas la déverser sur nous. Et nous pouvons être purifiés parce que Christ a porté notre souillure à la croix. Nous pouvons être délivrés de notre péché, de nos habitudes pécheresses, parce qu'il a versé son sang pour nous. Nous sommes délivrés de l'esclavage parce qu'il s'est rendu lui-même esclave en obéissant jusqu'à la mort. Par son sang et son sang seul, nous sommes rachetés par Dieu, donc nous lui appartenons. Et c'est le scandale de la croix, là où Christ a été condamné, je ne le suis pas, et ce pourquoi Christ a payé, je n'ai plus à le payer. Mais si Christ a payé, c'est qu'il m'a racheté et que je lui appartiens. Et Jésus, dès son ministère sur terre, disait bien que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Et finalement, Paul ne fait que réaffirmer les paroles de Jésus. Renoncez à votre autonomie, à obéir à vos désirs. Vient le temps de conclure. Toute pseudo-spiritualité qui se manifeste et se traduit par une vie qui sert à chercher à nourrir ses propres intérêts, ses propres convoitises, et qui fait que peu de cas des souillures, qui fait que peu de cas du péché, est incompatible avec ce que la Bible affirme. Paul cite les Corinthiens qui disent « tout m'est permis » et un petit peu plus tard, au chapitre 10, verset 23, lui affirmera à propos de sa vie « moi, je fais tout à cause de l'Évangile ». La vraie liberté que nous pouvons expérimenter ici-bas est celle qui consiste à nous livrer et à tout faire pour l'Évangile, à tout faire pour honorer Dieu. Nous étions vendus au péché. Nous sommes rachetés par Dieu et donc libres de ne plus pécher, mais bien plus que ça, libres de nous consacrer à tout faire pour ce Dieu qui nous a sauvés. Et pendant que nous y réfléchissons à ce que nous venons de dire, nous pouvons nous dire comment trouver la force, de vivre pour Dieu et de ne plus vivre selon ces désirs que j'ai. D'arrêter toute cette impureté dans ma vie, d'y mettre un terme. Comment me mettre à fuir? Finalement, on peut résumer ce que Paul a dit avec deux mots. Dépendance, assurance. Dépendance, en nous rappelant que nous sommes unis à Christ, nous avons besoin de sa vie, nous avons besoin de son esprit en nous, et l'assurance que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous sommes donc faits, taillés sur mesure pour accueillir Dieu lui-même qui vit en nous, pour nous donner les forces de lutter contre le péché et l'assurance que notre dette a été péchée et que nous avons vraiment été délivrés. Christ était l'homme le plus libre qui n'ait jamais vécu sur terre, parce qu'il était libre du péché. Et le modèle de Christ, comment il a utilisé sa liberté pour vivre, est notre modèle. La vie de Christ est notre modèle. Sa mort est notre remède. Sa vie est notre solution pour vivre ce à quoi nous sommes appelés. Amen.
Je vous invite à prendre une ou deux minutes de silence pour nous placer devant Dieu, réfléchir à ce qui nous a été dit.